Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Pour la présidentielle, on donne une nouvelle fois la parole à des associations. Cette semaine, on s'intéresse à la protection de l'environnement. Autobus et France Nature Environnement de l'Ain sont nos invités.
Et reportage pendant un atelier pour apprendre à recycler du papier, une activité facile à reproduire chez vous.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourque, en bref.
Nouvelle marche pour le climat ce samedi à Bourg-en-Bresse.
Et le départ se fera encore une fois place de la Vinaigrerie à côté de la Tannerie à 14h. Un rendez-vous national à la veille de l'élection présidentielle pour rappeler l'importance de la lutte contre le dérèglement climatique.
Et d'ailleurs, fin février, le deuxième volet du rapport du GIEC a été publié.
Et il est plutôt passé inaperçu avec la guerre en Ukraine. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat s'est penché sur les conséquences du changement climatique. Et nous sommes déjà à plus de 1,2 degré par rapport à la température moyenne à la révolution industrielle. Et le rapport indique que les conséquences sont déjà là. Augmentation des incendies, des inondations, des sécheresses. En bref, il est déjà trop tard, mais il est encore temps de réduire l'impact de ses conséquences. Un autre volet du rapport va être publié ce mois-ci et il concernera les solutions que les gouvernements peuvent appliquer pour permettre la limitation du changement climatique.
Sandrine Anquetin, directrice de recherche CNRS à l'IGE de Grenoble, l'Institut des géosciences de l'environnement, revient sur le fonctionnement de ce groupe d'experts.
En fait, c'était un petit groupe au départ de climatologues qui commençaient à voir des choses. Mais bon, voilà, on était dans la controverse scientifique, ce qui était tout à fait normal à l'époque. Donc, ils se sont mis ensemble pour essayer de chercher un consensus international. Et après, le GIEC, c'est des rendez-vous tous les 5-6 ans avec des rapports qui sont publiés tous les 5-6 ans. Donc, ça a commencé dans les années 80. Puis, le dérèglement climatique est sans équivoque lié à l'activité humaine, c'est 2021, le dernier rapport. Avant, c'était peut-être, après on joue sur les probables, très probablement, etc., on joue sur les mots, mais là maintenant c'est
sans aucun
doute.
C'était un extrait de la conférence « Quelle image des sciences dans les médias, l'exemple du changement climatique ?» Une conférence organisée par Radio B en partenariat avec Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain, fin mars. Et les moments clés seront diffusés sur le 90FM ou via le www.radio-b.fr le mercredi 13 avril à 18h et ce sera en podcast sur notre site internet.
L'État veut aider les Ukrainiens.
4 millions de femmes et d'enfants ont quitté l'Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie et ils sont plusieurs centaines à être arrivés dans l'Ain à ce jour. L'État a décidé de mettre en place une protection temporaire pour ces réfugiés de guerre. Ils auront droit à l'allocation de demandeurs d'asile, aux aides personnalisées au logement et pourront exercer une activité professionnelle notamment pour une durée de 6 mois pour l'instant. Jean Favier nous parle de la situation. Il est bénévole à la CIMAD, une association d'aide aux migrants.
Il y a une circulaire du 5 mars dernier qui a ouvert des directives pour les préfets pour faciliter l'accueil, faciliter la protection. Là, on les qualifie de réfugiés parce qu'ils sortent d'une situation de guerre. En plus, il y a eu une mobilisation sans précédent des familles, des simples citoyens qui se mobilisent pour les accueillir, pour les héberger, pour leur offrir des logements, de l'aide et tout ça. Donc effectivement, pour ces Ukrainiens qui arrivent comme ça, je dirais pas qu'on leur déroule le tapis rouge, ce serait vraiment cynique de le dire comme ça. Mais donc ils n'ont pas besoin de nous, CIMAD. Par contre, je peux témoigner d'un accompagnement que je fais depuis déjà 18 mois, d'un couple d'Ukrainiens qui vient de cette région de l'Est de l'Ukraine où ils ont été victimes de violences. Ils sont là depuis 5 ans en France. Ils sont sourds-muets et ils arrivent à survivre en France en situation de non-régularisation. En tout état de cause, on a pu redémarrer une procédure parce que ça fait plus de 5 ans qu'ils sont en France. Et on espère quand même qu'on va revenir sur une autre situation. Parce qu'aujourd'hui, que Madame la Préfète notifie à ces gens une obligation de quitter le territoire français pour retourner dans leur pays d'origine, vous voyez le sens que ça pourrait avoir. Soyons clairs.
Ça profite aussi à des Ukrainiens qui étaient en situation irrégulière ici.
Voilà, exactement.
Et sur le département de l'Ain, l'État a compté environ 700 places d'hébergement possibles pour des familles ukrainiennes. Une plateforme est aussi accessible pour donner de l'aide aux Ukrainiens, que ce soit en dons, en logement ou encore en apprentissage du français. C'est sur parrainage.refugie.info.
La ville de Bourg veut limiter l'utilisation de l'éclairage public.
Du 11 avril au 20 mai, la ville de Bourg va éteindre les lumières dans certaines rues du quartier des Vennes et de la Citadelle. C'est une expérimentation qui pourrait se poursuivre. Pour la mairie, l'objectif est de diminuer la consommation d'énergie et de limiter les effets néfastes de la pollution lumineuse. En juin, les élus feront du porte-à-porte pour recueillir l'avis des habitants. On écoute l'avis d'Emmanuel Hiverna, administrateur de l'association FNE France Nature Environnement de l'Ain, sur les de la pollution lumineuse sur la biodiversité.
Alors nous, on avait mené un projet qui est terminé maintenant sur le Pays d'Aix. Effectivement, on a développé ce genre d'activité avec les municipalités du Pays d'Aix, qui a très bien fonctionné, avec un financement de l'Office de la biodiversité, parce que l'intérêt principal ou la difficulté principale, c'est par rapport effectivement aux chauves-souris, par exemple, ou aux autres passereaux, qui sont complètement désorientés par le fait qu'il y ait de la lumière pendant la nuit. C'est pas seulement une question visuelle, hein, c'est aussi une question d'ondes, etc. Et du coup, supprimer la nuit la lumière, ça permet que toute cette faune puisse évoluer naturellement, disons, et aller notamment à la chasse aux insectes, puisque c'est à ce moment-là que ça se passe pour la plupart d'entre elles, et notamment les chauves-souris. Donc nous, on peut voir ça que de façon très bien. Et après, évidemment, il y a des conséquences aussi sur le coût. Ça fait une économie extrêmement importante. J'ai entendu un chiffre récemment qui disait que ça permettait d'économiser 10%, je crois, du budget électricité des municipalités. Donc c'est pas rien.
Emmanuel Hiverna répond aussi aux personnes qui sont contre l'extinction des lumières publiques la nuit.
Il y a souvent l'argument de dire « oui, mais en termes de sécurité, c'est un problème ». Et en fait, il n'y a absolument aucune étude qui démontre qu'il y a une hausse, une recrudescence de la délinquance liée à la baisse de la lumière, on va dire, sur les quartiers. La petite difficulté que moi, j'ai constatée à titre personnel, puisque dans ma commune, ça a été mis en place il y a quelques 2 ans, 1 an et demi peut-être, c'est qu'effectivement, quand on est dehors à 23 heures... Si tout se coupe à 100%, ça peut être compliqué pour les piétons qui sont sur les trottoirs. Donc peut-être pas couper tout d'un coup à 23h pile, mais avoir quelque chose d'un peu progressif ou en tout cas bien diffuser l'information qu'à 23h, les feux sont éteints, extinction des feux. Donc voilà, pour que chacun puisse prendre ses dispositions dans les meilleures conditions.
C'était Emmanuel Hiverna de France Nature Environnement. Retrouvez son interview sur l'environnement et la présidentielle dans quelques minutes.
Une table ronde pour tenter de revaloriser les métiers du médico-social.
C'est organisé par le département de l'Ain et elle a eu lieu la semaine dernière. Autour de la table, des élus du département, des financeurs de structures médico-sociales, des syndicats, des fédérations d'employeurs notamment. Et l'objectif, rendre attractif un secteur qui manque de professionnels. Martine Tabouret, vice-présidente du département.
On est tous d'accord sur le constat du manque effectivement de personnes dans tous les secteurs, hein, dans le domaine de l'enfance, mais bien sûr au niveau des seniors, au niveau des EHPAD, de l'aide à domicile, donc au niveau du handicap, un gros déficit aussi. Donc tous les champs sont touchés et donc ce qu'on attend c'est d'avoir le retour des partenaires, de mettre en place un diagnostic. Ce qui se passe sur les territoires, ce qui se passe dans chaque établissement, dans chaque secteur, et puis ensuite d'échanger sur les solutions possibles, quelles réponses apporter pour permettre le recrutement et puis surtout la fidélisation des salariés.
Et à l'issue de cette première table ronde, le département veut faire des groupes de travail pour notamment sensibiliser les jeunes aux métiers du secteur médico-social.
Plus de professionnels dans ce secteur et surtout mieux formés, c'est l'un des objectifs du département avec son plan Enfance 01.
Et le département a présenté 40 actions concrètes jusqu'en 2024 pour répondre aux besoins des femmes enceintes, des enfants et des familles. Un peu plus de 8 millions d'euros y seront consacrés. La moitié de ce budget est financée par l'État, l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie. Parmi les actions, rendre systématique un entretien avec la sage-femme du département pour la naissance d'un premier enfant. Cette mesure sera expérimentée dans le quartier de la Croix-Blanche à Bourg-en-Bresse et à Morvelle-en-Bresse. Créer un centre parental sous forme d'appartement pour accompagner les grossesses d'adolescentes ou encore des mères en situation précaire. Et l'ensemble des professionnels de la protection de l'enfance seront formés à repérer les enfants qui seraient dans une situation préoccupante. Environ 7000 enfants naissent chaque année dans notre département.
Un nouveau bac franco-allemand à la rentrée au lycée Quinet.
Et c'est le premier établissement de l'Ain à le proposer. Son nom est Abibac. Abitur, c'est l'équivalent du bac en Allemagne. Les amateurs de la langue de Goethe pourront avoir 6 heures de cours d'allemand par semaine et 4 heures de cours d'histoire-géo en allemand. Les troisièmes qui sont intéressés peuvent déposer leur candidature jusqu'au 20 mai. Et il existe aussi la section Bachibac pour un bac franco-espagnol au lycée Quinet et la section Esabac pour un bac franco-italien au lycée Lalande cette fois.
Jusqu'au 15 avril, c'est le printemps des écritures.
Un événement qui met en avant la calligraphie notamment. Des activités familiales gratuites sont proposées par la MJC de Bourg-en-Bresse. Et on écoute Anne-Claire Turc, chargée de mission culturelle. Elle nous présente le festival.
C'est un festival de sensibilisation autour de la calligraphie et des écritures au sens large, mais dans leur dimension graphique. C'est des sensibilisations à la fois au travers d'une exposition. Donc cette année, on accueille deux artistes qui s'appellent Noluk et Tarek Benahoum, qui exposent leurs toiles, et puis au travers d'ateliers à la fois à destination d'enfants, mais aussi d'adultes. Les artistes qui sont là, par contre, vont faire des propositions après en tout public, à la fois le mercredi après-midi, donc sur un atelier calligraphie arabe et street art. Le samedi après-midi, le 9 avril, on sera sur le campus. Pareil pour un atelier sur calligraphie arabe sur plexiglas, donc un support assez original. Et puis le dimanche 10 avril, on a une journée un petit peu festive et familiale, c'est une nouveauté cette année, avec trois ateliers différents autour de l'écriture, l'un sur la calligraphie sur tote bag, de la création d'encre végétale et puis un atelier de linogravure.
Et les activités sont gratuites et sur inscription. Retrouvez la programmation sur mjc-bourg.fr. Dans quelques minutes, en fin d'émission, un reportage lors d'un atelier de fabrication de papier recyclé fait dans le cadre du printemps des écritures. Facile à reproduire chez vous.
Deux minutes, une actu.
Comme tous les lundis et jusqu'au lendemain du premier tour de la présidentielle, on décortique les programmes des candidats sur un thème précis. Aujourd'hui, Inès, on parle de l'agriculture et plus précisément des pesticides.
Un sujet particulièrement important dans une terre agricole comme l'Ain. Ces produits ont pour but de détruire les organismes vivants qui menacent les récoltes. Ils ne sont pas sans danger pour l'homme et surtout pour les agriculteurs. L'exposition prolongée aux pesticides peut entraîner des maladies comme un cancer ou Parkinson. Dans l'Ain, il pourrait être à l'origine de l'affaire des bébés sans bras. 8 enfants qui sont nés entre 2008 et 2014 dans un même périmètre et qui ont une malformation au bras. Un phénomène qui pourrait être lié à l'exposition aux pesticides, mais rien n'a encore été prouvé. La seule plainte contre X déposée par la maman d'un enfant né sans doigt a d'ailleurs été classée sans suite en mars. L'utilisation des pesticides est donc très controversée, mais elle permet aussi aux agriculteurs de produire plus vite. Alors nous allons voir ce que les candidats pensent de leur utilisation. On commence avec Jean-Luc Mélenchon, il veut interdire les pesticides les plus dangereux comme le glyphosate. Il veut aussi réduire l'utilisation des intrants, c'est-à-dire les différents produits apportés aux cultures, les pesticides donc, mais aussi les engrais. Fabien Roussel veut créer une agence européenne pour homologuer des alternatives naturelles aux pesticides. Yannick Jadot et Anne Hidalgo veulent interdire les pesticides cancérogènes. Valérie Pécresse et Marine Le Pen veulent trouver une solution viable avant d'envisager toute interdiction des pesticides. Et Éric Zemmour veut développer la robotique agricole pour réduire la dépendance aux pesticides. Les autres candidats ne se sont pas prononcés sur le sujet.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.
Parce que c'est notre projet !
Les assos parlent aux candidats.
Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans quelques jours, le 10 avril, et le second sera le 24. Cette semaine, on s'intéresse à la protection de l'environnement avec deux associations, Autobus et France Nature Environnement de l'Ain. Jacques Tout-le-Monde anime Autobus. Cette association essaye depuis 10 ans de trouver des solutions pour réduire les embouteillages aux entrées de Bourg-en-Bresse et donc réduire les impacts des déplacements sur l'environnement.
On a tous remarqué qu'il y a 9 voitures sur 10 qui ont une seule personne à bord. Et les alternatives, c'est le covoiturage, le vélo, les transports publics. On y travaille à notre toute petite échelle en faisant des études, des expériences.
C'est quoi le plus difficile pour convaincre les gens de moins utiliser leur voiture ?
Moins utiliser la voiture, c'est une décision individuelle. Donc les gens doivent faire le pas. Mais c'est aussi une décision qui a une dimension collective. Il faut que ce soit possible, techniquement possible. Par exemple, pour venir ce matin depuis mon village qui est à 13 km de Bourg, en covoiturage, je n'avais pas de solution. En transport public, j'avais une mauvaise solution. À vélo, c'était possible. Mais c'était possible, mais j'ai dû passer, j'avais pas d'alternative, par une section de route toute droite où les voitures me doublent à 80 à l'heure quand c'est pas pire. Moi, je suis pas à l'aise, mais j'y arrive. Donc, pour que ce soit techniquement possible, il faut que les collectivités s'y mettent, qu'elles fassent des pistes cyclables, qu'elles fassent des systèmes de covoiturage qui fonctionnent bien, qu'elles fassent, quand c'est pas trop cher, des transports publics qui soient vraiment pratiques. Ça commence à bouger, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est lent. Alors, pour que les gens prennent leurs décisions individuelles, il faut aussi que ce soit une décision accompagnée. On s'aperçoit que ce qui a fait bouger les gens, c'est un groupe d'amis, ce sont des collègues de travail, c'est la direction de leur entreprise qui leur a fait des facilités ou qui les a mis le pied à l'étrier, c'est une association dans leur village. Et on pourrait dire tout ça, ce sont des ambassadeurs. Et bon, nous essayons de travailler là-dessus. Les collectivités, nous aimerions qu'elles encouragent cet accompagnement. Et d'autres collectivités le font ailleurs en France. Chez nous, pas encore.
Qu'est-ce qu'au niveau national, des décisions pourraient apporter sur ce sujet de l'éco-mobilité ?
Alors, pour que les décisions individuelles se prennent, il faut aussi qu'elles soient économiquement avantageuses. En ce moment, le prix du carburant monte sérieusement. On pourrait dire, et si on le laissait faire ? Covoiturer, faire du vélo, la décision est d'autant plus facile que l'essence est chère. Alors, qu'est-ce que fait l'État actuellement ? Il trouve toutes sortes de bricolages pour que l'essence ne monte pas trop vite. Qu'est-ce que promettent tous les candidats, sans exception ? La même chose. Est-ce que c'est le rôle de l'État de jouer ce jeu ? Alors, je vais vous dire oui et non. Oui, si je pense à un ménage qui habite à 30 km de Bourg, qui a couru aussi loin parce que les prix en ville sont trop chers, et qui comptait sur la voiture pour se débrouiller au quotidien et qui se retrouve avec une dépense qui devient insupportable. Que ces gens-là soient aidés, mais si on limite le prix de l'essence, on demande également aux contribuables un effort pour que la personne qui a des fins de mois très faciles monte dans une voiture qui pèse 2 tonnes pour faire 1 km pour aller acheter son pain. Alors que le contribuable aide à ce genre de comportement, pour moi c'est une aberration.
Est-ce que le dernier quinquennat a changé quelque chose pour l'écomobilité ?
La crise sanitaire a poussé beaucoup de gens à se mettre au vélo. Du point de vue piste cyclable, les collectivités devraient aller bien plus vite. Mais du point de vue des encouragements qui ont été faits au niveau national, ça a été une belle réussite. Il y a eu la prime pour réparer son vélo, il y a eu toutes sortes d'encouragements, facilités pour que les entreprises aident leurs salariés à utiliser le vélo. Donc ça, c'est une réussite. Pour le covoiturage, j'ai rien vu. Pour les transports publics du quotidien, c'était une grande priorité au début du mandat. C'est surtout profitable pour les périphéries des grandes villes, sujet que je connais un petit peu moins bien. Probablement y a-t-il eu un peu de progrès. pour des périphéries de petites villes comme ce qui nous préoccupe, nous, les transports publics, malheureusement, ne sont pas la solution. C'est beaucoup trop cher.
Alors, qu'est-ce que l'association Autobus attend de la prochaine présidence ?
Très directement, je dirais revoir sérieusement la nature des encouragements qui sont donnés à la voiture individuelle en solo d'une part et à ses alternatives d'autre part. Indirectement, une présidence qui se préoccupe au juste niveau du dérèglement climatique et des responsabilités qu'on a tous à tous les niveaux sur ce terrain-là.
Jacques Toutlemonde de l'association Autobus. L'association sera présente à la conférence organisée le mercredi 13 avril à Saint-Dizier-le-Bouchou. Avec Xavier Bribois, docteur en psychologie sociale, ils chercheront à comprendre comment nous changeons de comportement face aux enjeux de la transition écologique, comme par exemple passer de la voiture au vélo ou trier ses déchets. Autobus partagera son expérience, tout comme l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. C'est à 20h à la salle des fêtes de Saint-Nizier-le-Bouchou et c'est organisé par l'association Bressane citoyenne de débat et d'échange, ABCDE de l'Ain. Et retrouvez Jacques Toutlemonde chaque deuxième mardi du mois dans Un pas vers l'écomobilité, l'émission qui fait parler ceux qui trouvent des alternatives à l'auto-solo. C'est sur le 90FM à 7h55, 8h55 et 12h55 et en podcast sur radio-b.fr. Et Inès, vous nous faites un résumé des propositions des candidats et candidates à la présidentielle sur les transports.
Jean-Luc Mélenchon veut arrêter la mise en concurrence des trains et reconstruire le maillage des transports en commun, notamment dans les zones rurales. Il veut rendre gratuits les TER, les trains régionaux, et les bus pour les moins de 25 ans et les personnes à faible revenu. Anne Hidalgo veut redynamiser les petites lignes de train et baisser la TVA sur les billets. Elle veut investir dans les petites lignes, les trains de nuit et le fret ferroviaire et créer une taxe carbone sur le billet d'avion si une alternative comparable existe par le train. Fabien Roussel veut relancer le fret ferroviaire aussi et réouvrir les petites lignes SNCF. Yannick Jadot veut arrêter les grands projets ferroviaires comme le Lyon-Turin. Il veut investir 4 milliards par an pour moderniser le réseau ferroviaire et privilégier les trains du quotidien. Valérie Pécresse veut confier la gestion des lignes de trains régionaux aux régions qui le souhaitent. Elle veut simplifier les lois pour éviter que la justice annule les grands projets de transport ferroviaire et rendre le réseau plus fiable avec les trains existants. Nicolas Dupont-Aignan veut rénover le réseau ferroviaire plutôt que d'investir dans de nouveaux projets. Marine Le Pen veut développer des plans de mobilité douce, complémentaires à la voiture, et rendre gratuits les trains pour les jeunes de 18 à 25 ans aux heures creuses. Éric Zemmour veut prioriser les lignes de train de proximité pour les moderniser. Nathalie Arthaud veut moderniser le réseau de transport avec pour objectif de le rendre gratuit. Et Philippe Poutou veut réduire le transport de marchandises sur les routes en priorisant le fret ferroviaire et rouvrir les lignes de train qui ont été fermées.
Les assos parlent aux candidats. L'association Autobus, à travers ses différentes actions pour encourager à l'écomobilité, alerte aussi sur l'évolution du climat et ses conséquences. Un constat fait aussi par France Nature Environnement de l'Ain, Emmanuel Hiverna, administrateur de France Nature Environnement de l'Ain.
France Nature Environnement existe depuis plus de 50 ans maintenant et agit dans deux domaines, pour protéger la biodiversité et puis pour protéger les milieux qui accueillent toute cette biodiversité.
Alors concrètement, quelles sont les actions de France Nature Environnement de l'Ain ?
Et donc il y a trois types d'actions qui nous permettent de protéger la nature. Des actions d'éducation à l'environnement et de sensibilisation, quand c'est plus pour des adultes par exemple. Donc on intervient dans toutes les écoles, à peu près tous les professeurs de l'Ain nous connaissent, parce qu'ils ont eu un moment ou un autre une intervention de nos animateurs. Il y a ce qu'on va appeler la connaissance des milieux. Donc c'est tout un tas de réseaux en fait. Par exemple le réseau Sentinel qui permet de faire remonter les pollutions que les randonneurs, les différentes personnes qui sont dans la nature, les agriculteurs, etc. constatent dans le milieu naturel. Et puis ensuite, le troisième type d'action qu'on mène, c'est des actions juridiques pour faire appliquer la loi. Toute la loi, rien que la loi, mais toute la loi aussi. Et donc, on intervient assez souvent pour, comme partie civile en fait, hein, au tribunal pour dénoncer ce qui doit l'être.
Alors qu'est-ce que le dernier quinquennat a changé ou pas pour la protection de l'environnement ?
Non, je crois que tout le monde est d'accord dans les milieux de protection de la nature pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Malgré les discours de départ, malheureusement, sur les pesticides, des constats qui sont alarmants. Bon, tout le monde sait par rapport au climat aussi, bien sûr. Nous, on intervient moins, FNE1, sur les questions climatiques, puisqu'on est plus sur la biodiversité. Donc, on est plus indirectement, en fait, sur les conséquences, en fait, des changements climatiques.
Et qu'est-ce que vous voyez, justement, comme conséquence sur la biodiversité dans notre département ?
Bah, c'est un effondrement global. Hein. Mais effectivement, en termes de chauves-souris, d'insectes, qui ne viennent plus alimenter donc, tous les oiseaux, il y a une chute, enfin tout le monde le voit, hein, une chute des passereaux dans nos jardins, dans nos forêts même, etc., qui sont bien inférieurs. Je crois que le chiffre, c'est 30% de la biodiversité ailée, on va dire, qui a disparu. Après, il y a tous les questionnements, les difficultés avec... Les grands prédateurs, ça fait beaucoup jaser, le lynx, le loup, etc. Mais ce sont aussi des espèces protégées, donc on se doit de maintenir les populations pour que ça puisse se renouveler.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'eau, les conséquences sur l'eau ?
Ce qu'on constate, voilà, c'est que c'est fragile et qu'il faut y faire attention. On retrouve par exemple... des pesticides qui ont été interdits depuis des décennies et qui sont encore là, encore présents. On les détecte quand les techniciens font des analyses. Donc ça dit bien l'extrême fragilité de ces ressources et l'intérêt, l'importance de bien veiller à ne pas les polluer un jour puisque ça va rester très longtemps.
Alors qu'est-ce que France Nature Environnement de l'Ain attend de la nouvelle présidence ?
C'est de passer des paroles aux actes. Et donc, par exemple, nous, sur la question de la protection des eaux, il y a un communiqué de presse là, de notre réseau France Nature National qui vient de sortir par rapport aux pesticides, qui constate que le bilan est extrêmement décevant sur les 14 dernières années d'action publique en matière de réduction de l'usage des pesticides. En fait, au lieu de respecter l'objectif qui était une diminution, ils ont augmenté. Donc, c'est dire combien les actions de l'État ont été totalement inefficaces. Et par rapport à ça, ce qui est préconisé, c'est davantage accompagner l'agriculture biologique. Parce que mine de rien, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et la PAC, la politique agricole commune menée par l'Union européenne, n'est pas suffisamment soutenante vis-à-vis des agriculteurs qui font l'effort de passer en biologique, de se passer des pesticides. Donc il y a notamment ça et tout un tas d'autres préconisations qui permettraient aux agriculteurs de se tourner plus vers les productions biologiques de qualité.
Comment France Nature Environnement, je parle au niveau du réseau national, compte sensibiliser la prochaine présidente ou le prochain président donc à ces enjeux de protection de l'environnement, de la biodiversité ?
Je crois qu'il n'y a pas tellement besoin de les sensibiliser, en fait. Je crois que le blocage principal, c'est de peut-être moins écouter un certain nombre de lobbies. Alors évidemment, ils ont un pouvoir économique qui est faramineux, mais il existe d'autres voies, d'autres... structures, je pense aux structures d'agriculteurs qui réfléchissent depuis très longtemps et qui mettent en place surtout de nouvelles pratiques. Je pense par exemple à un groupe d'autoconstruction qui fait de la recherche citoyenne, c'est-à-dire entre eux, pour tester de nouvelles machines qui permettent de désherber, mais sans pesticides aucun. Voilà, donc il y a énormément d'initiatives, mais l'État qui devrait les diffuser et peut-être quelque part les favoriser dans l'agriculture dite conventionnelle, ne le font pas et c'est vraiment dommage quoi, parce que ça fonctionne, ça permet d'économiser sur les intrants, donc c'est un réel intérêt économique aussi pour les agriculteurs, c'est pour ça qu'ils le font.
Emmanuel Hivernat, administrateur de France Nature Environnement de l'Ain. Inès, vous faites maintenant le résumé des propositions des candidats et candidates sur la biodiversité.
Jean-Luc Mélenchon veut promouvoir un droit international à la biodiversité marine. Il veut dépolluer la Méditerranée et lutter contre la pratique de la pêche électrique. Fabien Roussel veut appuyer la création d'un traité international pour la protection des fonds marins et éviter ainsi leur exploitation. Yannick Jadot et Anne Hidalgo veulent que l'on reconnaisse le crime d'écocide. Ils veulent inscrire dans la Constitution de la France que la France garantit la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique notamment. Anne Hidalgo veut aussi créer un tribunal pénal international de l'environnement aux Nations Unies. Emmanuel Macron veut réduire les exportations de déchets et développer les filières de recyclage en France. Il veut aussi planter 140 millions d'arbres d'ici 2030. Éric Zemmour veut aussi développer le recyclage en France et créer un fonds de reboisement et d'adaptation au changement climatique pour mieux gérer nos forêts françaises. Jean Lassalle veut s'affranchir des directives européennes sur la conservation de la nature. Il veut défendre la chasse et la pêche. Et les autres candidats ne se sont pas exprimés sur le sujet.
Et que proposent les candidats pour baisser les émissions de CO2 ?
Philippe Poutou veut développer un mix énergétique 100% renouvelable. Il veut donc sortir du nucléaire en 10 ans. Il veut aussi interdire les énergies fossiles. Jean-Luc Mélenchon veut une baisse de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, l'objectif actuel étant de 40%. Et pour y parvenir, il veut notamment développer les transports en commun dans les grandes agglomérations. Fabien Roussel veut développer les énergies renouvelables, mais avec l'aide du nucléaire, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Yannick Jadot partage le même objectif, mais sans le nucléaire. Anne Hidalgo veut réduire de moitié les émissions de CO2 du secteur industriel d'ici 2035. Et elle veut aussi aider les entreprises dans leur transition avec un fonds de 3 milliards d'euros. Emmanuel Macron vise la neutralité carbone en 2050, en construisant de nouveaux réacteurs nucléaires notamment. Même objectif pour Valérie Pécresse, et elle veut qu'en 2035, plus aucune voiture neuve ne marche seulement avec des énergies fossiles. Jean Lassalle veut investir dans les énergies renouvelables. Nicolas Dupont-Aignan souhaite continuer sur le modèle actuel avec le nucléaire et l'hydroélectrique. Pareil pour Marine Le Pen, qui veut aussi poursuivre avec l'énergie nucléaire et l'hydroélectrique. Et elle veut aussi consulter les Français chaque année pour revoir les objectifs. Éric Zemmour, quant à lui, souhaite interdire les exportations de bois brut et privilégier les circuits courts en augmentant la part des produits locaux dans la restauration collective. Il veut aussi une mise en place de la taxe carbone aux frontières européennes. Et à ce jour, Nathalie Arthaud ne s'était pas exprimée sur le sujet.
Merci Inès. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
Faire son propre papier recyclé, c'est facile.
À l'occasion du printemps des écritures de la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture, un atelier enfant était organisé et ils ont tous fabriqué leurs propres feuilles avec du papier recyclé. Anne-Claire Turc, chargée de mission culturelle, nous explique comment faire.
On se jette au papier recyclé. Le papier, est-ce que vous savez de quoi ça vient ?
L'arbre. Ouais. C'est dure question.
L'arbre, est-ce que vous êtes tous d'accord ? Ouais ? Vous saviez que le papier s'était fait à partir d'arbres ?
Oui.
Bah vous saurez aujourd'hui, vous saurez en sortant de l'atelier. Et donc du coup, un arbre, à votre avis, avec un arbre, on peut faire combien de feuilles de papier ? 500 ?
Oui.
Toi, tu dis 500 plutôt. Toi, plutôt 100 000. Et vous, vous
dites
combien ?
Oui, pour les plus gros.
500 plutôt ?
Moi, pour 500. Les plus gros, oui, moi je dis c'est 1000, mais pour les plus petits,
un peu moins.
C'est beaucoup moins, oui, oui.
Bah alors... Vous êtes tous plantés, on fait 8000 feuilles avec un arbre. Quand même, ça prend beaucoup d'arbres quand on sert du papier, donc c'est important de faire attention à bien recycler, etc., bien le réutiliser. Faut bien penser à l'imprimer des deux côtés, etc., le mettre bien dans la poubelle jaune pour au maximum le recycler pour éviter que tous les arbres soient utilisés pour le papier. C'est très important. Ouais. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le recycler. Si à la maison, vous voulez réessayer de faire votre papier recyclé, je vais vous montrer le procédé, ok ?
Bonjour, moi c'est Anne-Claire Turc, je suis chargée de mission culturelle à la MJC. Alors aujourd'hui on accueille des enfants pour un atelier de papier recyclé dans le cadre du printemps des écritures. Donc l'idée c'est de faire plein de propositions de découvertes autour de l'écriture. Et puis forcément pour écrire on a besoin de papier, donc c'était l'occasion de proposer cet atelier qui permet de les sensibiliser à la fois à la question du recyclage du papier mais aussi à l'écriture.
Et ben on va s'y mettre. Vous allez prendre chacun une petite poignée de papier. Là vous venez vous servir dans le sac.
Oui. Quand même, c'est du papier assez découpé.
Ouais, il est déjà bien découpé. Hein. Donc on prend une petite poignée, hein, chacun des couteaux.
Comme ça?
Non. Oh là, tu en as pris beaucoup trop. Regarde. Regarde, une petite poignée comme ça à peu près, tu vois.
Comme ça?
Voilà, vous prenez une petite poignée comme ça, puis vous venez vous mettre sur la table. Et donc, vous allez commencer à déchirer. Vous voyez, c'est déjà bien découpé, mais vous pouvez continuer à le déchirer un petit peu, faire des petits bouts. N'hésitez pas à tous mettre un petit peu les mains. Regarde, tu peux essayer aussi.
C'est un peu gluant. Hein.
Continue. Ouais, c'est un peu gluant. Pour voir comment la texture change.
Non.
Vous sentez que ça devient un peu pâteux?
Oui. Oui. Ça, ouais. C'est dur.
On met toutes les petites chutes et on passe au mixage.
Ouais.
Là, c'est parfait. Alors maintenant, bah, du coup, on va passer. Il faut qu'il y en ait un qui prenne le saladier et on va aller de l'autre côté. Attention, c'est toi qui as la pâte de papier entre tes mains. On va regarder juste ici. Et tu vas verser là-dedans ton papier. Donc là, en fait, je me dis que vous voyez là pour le moment, c'était un peu épais là-dedans. Donc ouais. Là, le fait de mettre dans l'eau.
Oui, voilà. Oui.
Donc là, ça va être beaucoup plus fin. Donc on va bien mélanger. Je vous laisse bien mélanger avec vos mains. On utilise des petits cadres. Vous voyez, c'est un cadre en bois avec une petite moustiquaire, un petit tamis. Ouais. Et donc, ça va permettre, c'est très fin, ça va permettre de retenir le papier qui va s'agglutiner. Et par contre, l'eau va passer à travers. Et donc, on va pouvoir récupérer comme ça notre feuille de papier. Alors, pour ça, on plonge notre petit cadre. On mélange bien l'eau. Et en fait, on va juste relever comme ça, bien droit. Et l'eau va s'égoutter. Et vous allez voir, on va voir apparaître la feuille.
Ah oui!
On récupère en fait toutes les petites fibres de papier.
On dirait c'est magique.
Ouais. Mais c'est vous qui allez faire maintenant. Moi je l'enlève, la mienne. Hop. Tu veux commencer? Allez, bah je te laisse faire. Alors après, l'idée c'est que ça s'égoutte le plus possible, que tu enlèves le plus d'eau possible. Donc tu peux passer ta main un petit peu en dessous comme ça. Tu vois, ça va chasser de l'eau. Voilà, tu poses ici, donc on va laisser bien... Tu vois, toute l'eau va bien partir, va imbiber le torchon, et puis comme ça, on va récupérer que notre papier. Là, j'ai des petits chiffons. Alors en fait, tu vas d'abord le retourner sur ton torchon. Retourne-le complètement. T'inquiète pas, il va pas se démouler, parce qu'il est trop collé pour le moment. Et donc là, pour enlever encore l'humidité, il faut venir passer avec le chiffon sur l'envers, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, le démoulage, c'est pas le plus facile. Il faut tapoter tout doucement. Il faut essayer, en fait, par les angles, de le décoller. Donc là, c'est un petit peu la débrouille. Il faut tapoter tout doucement, sans l'abîmer.
Il faut faire comment, en fait?
Vincent.
Vincent, t'as pensé quoi, donc, de cette animation, cet après-midi?
C'était bien. J'ai appris des choses. Qu'on pouvait faire d'autres papiers avec du papier recyclé.
Tu vas le refaire chez toi, tu penses?
Oui.
Arcella. Bah, c'était bien. Bah, c'est bien de recycler du papier. On apprend plusieurs choses.
Et chez toi, tu fais d'autres activités comme ça, où tu recycles des choses?
Bah, je recycle des bouchons. J'invente des jeux avec.
Et vous aussi, vous pouvez faire votre propre papier recyclé. Vous avez besoin de papier déjà utilisé, d'un saladier, d'une bassine, d'un mixeur, de l'eau et d'un cadre en bois avec un tissu type moustiquaire pour filtrer l'eau et de torchons. Il faudra laisser votre papier sécher 24 heures avant de pouvoir dessiner ou écrire dessus.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, dans Les Assos parlent aux candidats, nous accueillerons la CIMADE de l'Ain et le collectif Jeunes Migrants pour savoir ce qu'ils attendent de la prochaine présidence au sujet de l'immigration.
À lundi prochain, 18h sur le 90FM.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc, heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.